Je vais maintenant passer la parole à Marion Boudier. Marion Boudier, vous êtes maîtresse de conférence en études théâtrales à l'Université Picardie-Jules Verne à Amiens. Vous êtes membre du Centre de recherche en art et en esthétique, actuellement en délégation à l'Institut universitaire de France. Vos travaux portent sur les écritures textuelles et scéniques contemporaines, la dramaturgie, les processus de création, l'acteur, l'actrice et le document. Vous êtes coporteuse du programme de recherche Performer les savoirs avec Chloé Descheries depuis 2018 et également dramaturge. Vous accompagnez notamment Joël Pommerat et la compagnie Louis Brouillard pour des projets de théâtre et à l'opéra. Voilà, vous avez notamment coécrit le lexique De quoi la dramaturgie est-elle le nom? Et avec le collectif de la revue Agone. Et vous avez reçu le prix du syndicat de la critique pour Avec Joël Pommerat, tome 2, l'écriture de Ça ira, un fin de Louis, paru aux éditions Actes Sud en 2019. Je vous laisse la parole justement pour vous aussi une intervention autour de l'application Zoom, mais cette fois-ci avec le travail de Guillermo Pisani, le spectacle Là tu me vois, dramaturgie d'une expérience théâtrale sur Zoom.
Merci Julien, merci pour l'organisation, pour cette présentation, merci à Nathalie également. Donc effectivement, je vais être dans un régime un peu plus universitaire, enfin, contrairement au témoignage précédent, et donc essayer de proposer une analyse dramaturgique de cette pièce de Guillermo Pisani avec un PowerPoint classique. J'essaierai d'en sortir pour revenir à vous. Donc là, tu me vois, est une pièce de l'auteur et metteur en scène Guillermo Pisani, écrite, répétée et jouée avec le système de visioconférence Zoom pendant le deuxième confinement. Avec cette pièce, il fait acte de résilience pendant une période de fermeture de théâtre et de relations vécues à distance à travers des applications, des plateformes de télécommunication et de téléprésence. Donc, il se demande hein, comment faire ensemble, comment être ensemble si chacun reste chez soi. Sa pièce explore les possibilités et les frustrations engendrées par le fait d'être privé de la présence physique des autres. Comment arrive-t-on par moments, malgré tout, à faire l'expérience de vivre quelque chose ensemble? Je voulais mettre le spectateur au centre de cette expérience qui, d'une certaine manière, interroge aussi le mythe de la communauté théâtrale ou autre. Fin de la citation. Donc là, tu me vois est une forme sens, je dirais, selon la terminologie de Jean Rousset. Dans la démarche de Pisani, le choix d'un contenu et d'une forme vont toujours de pair. Et puisqu'il se demandait comment nous pouvions continuer à faire communauté alors que nous étions séparés, il décide de traiter cette question avec les outils qui sont alors à notre disposition. Hein, ces mêmes outils par lesquels on essayait plus ou moins tous, toutes, de continuer nos vies intimes, professionnelles, avec les apéros WhatsApp, les salons Discord, les visioconférences sur Zoom. Donc, il ne fait pas du tout appel à un concepteur, ingénieur réseau ou développeur de logiciels, hein, contrairement à d'autres initiatives actuelles. Il fait le choix plutôt d'une réappropriation d'un outil existant, donc on pourrait dire une innovation d'usage plutôt qu'une innovation technologique. Voilà, donc dans son contexte, là tu me vois, c'est une réappropriation de l'expérience Zoom que nous commencions aussi à subir par le télétravail. Moi, je souscris aux idées de Bernard Stiegler sur l'idée qu'il faut s'emparer de ce pharmacon que sont les GAFA, enfin, et pour s'en désaliéner, pour en prendre soin, inventer de nouveaux usages. Dans le cas de Là, tu me vois, Zoom ne sert pas uniquement une captation retransmise en direct, comme dans un live Instagram ou Facebook. Ce n'est pas qu'un canal de streaming, c'est aussi un outil de représentation et d'écriture. Il ne s'agit pas de mettre en scène sur Zoom une pièce qui aurait été écrite préalablement, mais il s'agit d'écrire pour et avec Zoom. Donc Pisani refuse de transposer un mode de représentation existant dans un autre. Il décide d'inventer une nouvelle forme avec ce médium numérique, comme on l'a vu d'ailleurs dans l'exemple précédent. Ma question donc face à cette œuvre, c'était d'abord celle du modèle de représentation, pour reprendre les réflexions de Bernard Dort, puis Joseph Danan. Hein, tout auteur écrivant avec une certaine idée de la scène propre à son époque, en quoi le logiciel Zoom pourrait-il constituer un nouveau modèle de représentation vers lequel tendraient les écritures ? Question que s'était déjà posée il y a quelques années Julie Valero, en demandant quel avenir artistique peut constituer Internet comme modèle pour le théâtre au XXIe siècle. Question qu'elle avait dépliée à travers des exemples de trois nets artistes qui travaillaient sur des analogies, des complémentarités entre la scène et certains mécanismes de l'espace numérique et des moteurs de recherche. Alors, Pisani n'est pas un net artiste, il ne travaille pas sur cette transposition, il n'avait jamais envisagé son rapport au théâtre sous des aspects technologiques avant cela. Même si, il faut le noter, sa pièce précédente, Là tu me vois, non, Là tu me vois, non, la pièce précédente, J'ai un nouveau projet, interroge la présence des outils numériques dans nos vies, puisque dans J'ai un nouveau projet, créé en 19, repris cet automne dernier à la tempête, on voit à travers des écrans le contenu des téléphones et des ordinateurs des personnages. Ça fait partie de l'écriture. Donc, en quelque sorte, on peut dire que avec le confinement, Pisani a radicalisé hein, ses interrogations sur nos liens numériques et sur la manière d'écrire en intégrant ces outils. Voilà, donc là, bah, c'est un moment où j'ai un nouveau projet de communication par Tinder. Donc, je disais que pour... Pour Pisani, donc Zoom n'est pas seulement un modèle de représentation vers lequel tendrait l'écriture, c'est un outil avec lequel écrire, composer et mettre en scène. Et donc la question du modèle de représentation s'élargit à celle des nouveaux modes de production du texte théâtral et aux mises en crise ou au renouvellement du drame sous l'influence de la scène numérique. Donc, est-ce qu'on peut identifier une poétique et une poétique de Zoom ? Comme le note Franck Corneret dans « Pour une poétique du numérique », le sens est supporté par des conditions matérielles sans lesquelles il ne saurait apparaître, mais avec lesquelles il ne peut se confondre. L'usage de la technologie peut avoir sa poétique en tant que façon de faire avec, d'en disposer et de créer. Donc j'aborderai les particularités de « Là, tu me vois » dans une perspective dramaturgique, hein, au sens classique de composition et au sens moderne de relation entre écriture et scène. Donc, confinée dans le même lieu de vie et de travail que Guillermo Pisani, j'ai pu assister à certaines étapes du processus de création. Je n'ai pas participé à la conception ni à la création de « Là, tu me vois ». Récemment, Guillermo Pisani m'a sollicité comme dramaturge pour imaginer une évolution de sa forme. Et donc, ça m'a conduite à reconsidérer mon expérience de spectatrice de cette forme et à retravailler le texte de la pièce, à mieux rentrer dans son architecture, le texte ayant été établi récemment pour une éventuelle édition. Voilà, donc maintenant que j'ai posé les problématiques et que ma parole est située, je vais rapidement décrire la pièce. Donc, elle est jouée en direct à distance par 6 comédiens et comédiennes qui sont chacun chez eux. Ces comédiens jouent à travers les caméras de leur ordinateur, de leur téléphone, pour une jauge limitée à une centaine de spectateurs maximum, pour garder quand même une certaine intimité. Ces spectateurs, spectatrices étant tous connectés, où qu'ils soient, dans le monde ou ailleurs en France. Trois histoires avancent de manière concomitante dans trois salles de Zoom. Donc, c'est comme si, là, parallèlement à notre conversation, dans une autre salle, il y avait un autre panel qui aurait lieu en même temps. Donc, trois histoires dans trois salles. La première salle, c'est celle de Robert. C'est une veillée autour d'un homme en fin de vie à l'hôpital. La deuxième fête-concert est une fête. Et la troisième salle, c'est une AG, la réunion de salariés d'une entreprise qui vont fonder une SCOP. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'être ensemble dans chacune de ces situations ? Voilà, ces histoires, les personnages qui sont sur Zoom mettent en scène ces thèmes du collectif, de l'isolement et de comment se réunir et être ensemble malgré la distance. Les spectateurs, spectatrices sont invités à garder ouverts leur caméra et leur micro Et ils sont libres de se déplacer d'une salle de Zoom à une autre salle quand ils le souhaitent. Voilà, leurs réactions libres, parfois leur participation, sont incluses dans la dramaturgie. Voilà, personne n'a une vision globale de la pièce, chacun fait un parcours différent. Donc, à moins de venir plusieurs fois, il est difficile de saisir la totalité de cette forme. L'unité est créée grâce au système actantiel, c'est-à-dire les personnages que sont trois femmes d'une même famille, Liliane, la grand-mère, donc qui est au chevet de Robert Mourant, Solange, la mère, et Angèle, la petite fille. Donc, ces trois femmes font le lien entre les trois salles. Liliane a convié des gens auprès de Robert. Donc, ces gens, c'est nous, en fait. Mais elle a aussi, bien sûr, prévenu sa fille et sa petite fille pour accompagner Robert dans ses derniers instants. Mais Solange et Angèle sont prises par ailleurs, en fait. Donc, Solange est à l'AG, Angèle est à une fête. Et donc, elles vivent leur vie et rejoignent plus tard ou ponctuellement la veillée de Robert. Vous trouverez, je pourrai partager plus tard ce montage, et sinon vous pouvez trouver sur Internet un reportage qui avait été fait par Arte, qui permet aussi de saisir bien la forme dans son ensemble. Donc je voulais évoquer après ça le processus de création, qui s'est fait dans un va-et-vient entre l'écriture textuelle et des essais avec les comédiens sur Zoom. Il n'y a jamais eu aucune répétition en présence. Donc, Guillermo a travaillé à partir de premières idées fictionnelles qu'il avait. Il a exploré parallèlement les possibilités offertes par Zoom avec ses comédiens. Cette exploration l'a conduit à imaginer une forme et à continuer de développer son matériau textuel selon les possibilités de Zoom. Pour lui, c'était important, je cite, d'écrire directement sur Zoom, et pour cela, il fallait comprendre cette nouvelle grammaire de la dramaturgie et de la représentation. Donc, en effet, puisqu'il ne s'agit pas de traduire Zoom, de traduire une forme existante sur Zoom, une forme pensée pour un plateau de théâtre, mais de faire, d'écrire une pièce originale pour Zoom, il faut que toute la pensée de la dramaturgie parte de Zoom, en fait. Et donc, il faut comprendre comment ça marche, quelle représentation ça engage, quelle relation spectateur ça engage. Donc, ce n'est pas seulement une question technique, de maîtrise de l'interface, du chat, des filtres, des fonds d'écran, etc., qui viendrait augmenter un modèle de représentation existant. C'est vraiment une question d'écriture, d'interroger les mécanismes avec Zoom de cette écriture. Donc, notamment, se demander quel est l'espace de la représentation. Voilà, est-ce que si l'acteur sort du cadre de la fenêtre de son écran, il est encore sur scène ou pas ? Comment fonctionne l'espace concret dans lequel sont les acteurs par rapport à l'espace mental créé par la fiction ? C'est aussi interroger, comme l'a dit Isabelle Starquet précédemment, le jeu de l'acteur, quelle adresse ? Comment on joue ensemble quand on n'est pas dans le même espace ? Qu'est-ce que ça signifie d'être son propre caméraman pour l'acteur ? Et puis, c'est interroger la place de la fiction, du réel, la notion d'action et d'événement même qui se déplace, pour réfléchir à ce qui fait une expérience pour le spectateur. Ce qui devient à se demander comment on peut être un spectateur pour Zoom. En fait, c'est vraiment cette préoccupation pour l'expérience, la relation au spectateur qui fait entrer en écriture de manière spécifique avec ce média. Donc, une des grandes questions dramaturgiques est de trouver comment écrire une fiction qui tienne les trois salles simultanément, qui soit intéressante pour chaque salle aussi. Et quel sera le parcours du spectateur ? Comment faire une dramaturgie qui tienne l'attention du spectateur dans trois salles, avec des parcours multiples possibles, qui puissent créer de l'identification pour lui, où il ne soit pas perdu, où il avance dans des histoires. Donc, comment transmettre toutes ces choses avec des outils qui ne sont pas les outils classiques du théâtre, mais qui sont transformés par Zoom ? Il faut imaginer toutes sortes de postures spectatoriales. Il y en a qui vont bouger tout le temps, et il y en a qui vont donc zapper, puis il y en a d'autres qui vont rester que dans une salle. Et il faut qu'il se passe quelque chose pour chacun, chacune. Donc, toutes ces réflexions préalables engagent des partis pris. Par exemple, ne pas travailler sur un seul espace, sur une seule case, qui serait comme l'espace fantasmé du théâtre. Si on est tous à regarder un seul acteur qui dit un texte, ça fait théâtre, ça crée une distance, on perd la relation Alors que quand il y a 4-5 acteurs qui font des choses en même temps, ça, il y a un autre type de rapport, il y a une interaction qui se crée, une expérience partagée, voire participative qui peut avoir lieu. Deuxièmement, ce qui se passe sur Zoom. Hein. Bon, ça c'est clair, la référence au médium, elle est là dans le titre déjà. Là, tu me vois, comme on dit, tu m'entends quand on téléphone. Troisièmement, les micros, les caméras des spectateurs restent ouverts. Voilà, on ne cherche pas la prouesse technologique, mais l'expérience et donc une réactivation de ce lien social qu'est le théâtre, qui est fait de coprésence, d'interaction collective. Voilà, c'est vraiment une spécificité du théâtre et de cette forme Zoom par rapport au streaming ou à la télévision qui nous place dans une solitude en fait anonyme. Donc, il faut sortir de ça. Hein. Je suis toujours avec ce qu'Isabelle disait en conclusion précédemment. Pisani écrit très très vite, en 3 semaines, de manière très intensive, entre 2 séances d'exploration sur Zoom avec les comédiens, 10 jours avant la première rencontre avec le public, il établit un premier schéma de sa pièce, de manière paradigmatique, mais il faut aussi que dans chaque salle, de manière syntagmatique, les choses se passent et soient intéressantes, c'est la gageure à tenir. Donc, une caractéristique de cette forme, c'est l'étendue en fait du drame, on pourrait dire, qui joue sur la simultanéité et qui travaille un même motif dans 3 salles différentes selon 3 registres, 3 tonalités différentes. La salle 1 est assez méditative, elle convoque le silence, la prière, le recueillement, avec une couleur un peu tragicomique. Voilà, Liliane dit bah, « maintenant, je vous ai fait venir et j'ai rien à vous dire ». Nous pouvons peut-être partager le silence, un temps, c'est pénible, un temps. Mais quand je vous regarde tous, là, j'ai comme l'impression que nous avons vaincu quelque chose, un temps. Et puis après, la sensation ne dure pas, elle se dérobe. Liliane porte un intertexte assez beckettien. Un peu plus tard, elle dit « Comment va Robert ? Quelque chose suit son cours, cap au pire ». La salle 2 est beaucoup plus ludique, la salle du concert. Elle propose un quiz musical, elle propose de chanter un karaoké. Dans cette salle, il est arrivé qu'un spectateur fête en direct son anniversaire avec tous les gens réunis. C'était pas du tout prévu et ça a été parfaitement intégré par la forme. Dans cette salle, Guillermo Pisani met à l'épreuve ce qu'on peut faire ensemble sur Zoom. Par exemple, il est très dur de chanter ensemble. On n'est pas synchronisé à travers Zoom. Et Angèle finit par faire un malaise en fin de soirée. Comment on fait pour venir en aide à quelqu'un qui s'évanouit comme ça, sous nos yeux, à l'écran? Voilà, des choses qu'expérimente cette salle. Et la 3e salle est délibérative, c'est une AG. Donc, la participation du public est sollicitée sous forme de propositions et de votes avec un ordre du jour. Et on discute d'une coopérative utopique, ce qui permet de générer dans l'imaginaire des images de vie commune alors qu'on n'est pas ensemble. Donc, ça réintroduit du vivre ensemble comme un horizon désirable, souhaitable, en mettant en discussion, comme l'écrit Guillermo Pisani, des grandes institutions qui structurent l'ordre social contemporain, la famille, la propriété, le travail, l'éducation, etc. Donc, il y a une simultanéité de ces 3 situations qui fait bouger les notions d'action, principale et d'action secondaire, d'unité et d'action. On pourrait penser que la mort de Robert, c'est l'action principale, d'autant que c'est dans la salle numérotée 1. Mais en fait, si on est dans la salle 2, la mort de Robert, ce n'est pas un événement, c'est une information. On apprend par Angèle que son grand-père est mort, il faut la consoler. Et puis dans la salle 3, en fait, la mort de Robert, c'est carrément un non-dit. On voit Solange pleurer, mais on ne sait pas pourquoi. Donc c'est un non-dit agissant pour le personnage, mais on voit que le statut de l'action et de l'événement n'est pas le même selon les salles. Ça suppose aussi une circulation pour le spectateur de l'information qui est un peu particulière. Comme dans un telenovelas, il faut régulièrement redonner la situation pour que des spectateurs qui entreraient dans la salle comprennent ce qui se passe. Donc, dans l'Assemblée générale, il y a un paperboard où on note tous les points qui ont été évoqués, qui permet de récapituler. Dans la salle 1, il y a la question qui fait retour, mais qui sont tous ces gens? Ah, je les ai amenés pour qu'ils soient présents autour de Robert, répond Liliane, etc. Un aspect essentiel, c'est le temps réel, hein, Pas d'ellipse, pas de voyage dans le temps qui créerait une distance conventionnelle par rapport au fait même d'être là tous ensemble connectés au même moment. Donc c'est une écriture du présent au présent qui demande aussi d'être jouée comme telle pour faire événement, pour que la relation avec le spectateur ici et maintenant se passe. On pourrait dire qu'il y a un état performatif du drame, pour reprendre la formule de Joseph Danan. Les personnages sont des identités très fortes, facilement identifiables, mais ils ne se dénoncent pas comme personnages théâtrales, ils créent aussi de forts effets de réel comme individus contemporains. Et on voit tout le temps le comédien au travail. Hein. Liliane, quand elle dit à Robert « Je pense que nous avons réussi notre vie », elle dit qu'elle avait préparé cette phrase et elle se demande si elle l'a dit comme il faut. Enfin, donc, on voit le performeur toujours derrière le personnage. Et les conflits ne sont pas du tout artificiels. Ce qui se passe ici, maintenant. On ne joue pas une AG, on fait vraiment une AG. On discute, on vote, on délibère avec les participants, participantes en présence. Donc, une des gageurs, c'est de, étant donné ces progressions parallèles, c'est de trouver des points de rencontre, de gérer le tout et ses parties. Donc, chaque salle est divisée à des moments en moments qui, dans la version écrite, sont sous-titrés, numérotés. Et il y a des repères qui indiquent des points de convergence, de concomitance. Donc, j'avais essayé de schématiser. Ça m'a pris toute la journée d'hier. Je vous l'enverrai parce que c'est assez complexe. J'ai essayé de schématiser cette forme avec cette double avancée par histoire le long d'un axe comme ça, vertical, et la progression globale de manière horizontale, jusqu'à ce que tout le monde se retrouve en fait à la fin dans la dernière salle. Voilà, il y a une élasticité, il y a une plasticité de l'écriture qui est nécessaire, parce que quand les personnages passent d'une salle à l'autre, on ne sait jamais, ils ne savent pas ce qui se passe là où ils vont arriver, donc c'est très difficile d'être synchronisé. Donc il y a des répliques, il y a des tirades un peu élastiques qui permettent comme ça d'ajuster ces passages. Donc voilà, pour conclure, c'est une écriture très, très organique, avec comme spécificité la visibilité, la convocation du public pour vraiment vivre une expérience théâtrale. C'est assez original par rapport à d'autres pièces Zoom qui ont pu être évoquées par Barbara Fuchs dans son ouvrage sur Theatre of Lockdown. Elle parle par exemple de Richard Nelson qui a fait « What do you need to talk about ?» qui a été identifié comme le premier drame Zoom, qui est en fait une simple conversation entre des membres d'une famille, comme si, à défaut d'être ensemble à table, ils sont ensemble sur Zoom. Par rapport aussi à Force Entertainment, « End meeting for all », fin de la réunion pour tous, allusion à Zoom, qui travaille des improvisations sans action, seulement en faisant face à la situation et en apprivoisant Zoom, on a chez Pisani cette présence et cette participation des spectateurs qui est vraiment singulière. Donc, le mouvement, la présence des spectateurs qui explorent une multiplicité de situations dans trois salles de Zoom, ça produit une architecture dramaturgique complexe, une forme de rhapsodie, on pourrait dire, habitée par un souffle performatif. Et cette totalité ordonnée a des ramifications, des points de rencontre qui, je dois dire, étant donné la brièveté du processus de création, force un peu l'admiration. Voilà, c'est une forme qui ne se laisse pas décrire facilement avec les outils du bel animal aristotélicien. Et en tout cas, il me semble que c'est vraiment un auteur qui s'est approprié Zoom au service de son écriture singulière. Par ailleurs, il aime beaucoup faire des architectures comme ça, multiples, avec des lignes narratives qui se croisent. Et avec Zoom, il a pu encore plus exalter cette tendance borgésienne, je dirais, de sa dramaturgie. Merci et désolée pour les images et citations que je n'ai pas pu afficher.
Merci beaucoup, Marion Boudier. De toute façon, il y aura à la suite de ces échanges un PDF qui s'affichera très facilement puisqu'il sera téléchargeable et vous y contribuerez aussi pour illustrer votre intervention. Oui, merci. C'est intéressant puisque là, on voit vraiment qu'il y a un espace virtuel qui se déploie, qui n'est pas le même que l'espace virtuel déployé par Isabelle Starquet, puisque là, c'est vrai qu'on investit 3 salles différentes dans Zoom et dans la forme que j'avais pu voir autour de Don Juan, l'escape game d'Isabelle Starquet, il y avait donc des espaces qui étaient ouverts sur Internet en dehors de Zoom ou à travers des documents qui étaient envoyés par mail au préalable, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce rapport à l'écriture virtuelle en passe toujours par l'espace et que ce rapport à l'espace qu'explore Guillermo Pisani avec Zoom à travers 3 salles, il fait vraiment écho aussi à du travail en présentiel dans des formes en déambulation avec des scènes répétées à plusieurs endroits ou pas forcément répétées mais qui demandent à être reprises. On pourrait remonter jusqu'à Shakespeare avec les scènes dans la rue, etc.